14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? En tout cas, l'homme dans sa vie a eu ou aura une panne d'érection. Voilà une phrase qui devrait vous rassurer, messieurs, parce qu'après tout, une panne d'érection, c'est pas la fin de la sexualité. Et justement, a priori, il n'y a pas de raison que la sexualité des hommes s'arrête à un certain âge. Néanmoins, il y a bien sûr une diminution de l'intensité sexuelle au fil du temps, et c'est ce que nous allons voir en compagnie de Eric Haller, qui est spécialiste de la chirurgie vasculaire et endovasculaire de l'érection. Alors, en principe, avant 30 ans, l'énergie sexuelle est à son apogée et c'est vers la cinquantaine, on va dire, que l'énergie diminue. Mais c'est aussi le bon moment pour trouver le juste équilibre entre la pulsion et le désir. D'ailleurs, on prétend que l'homme devient un meilleur amant à partir de 40 ans. Donc, tout va bien. Alors, après 60 ans, souvent à cause d'une baisse hormonale assez importante, les érections sont plus lentes à venir et nous verrons aussi, et ça je crois que c'est très important, quelle est la meilleure hygiène de vie pour se maintenir en bonne santé sexuelle. Sachez déjà messieurs que votre pire ennemi, eh bien il semblerait que c'est la cigarette. Donc préférez la pipe si je puis dire. En tout cas, si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. Donc je parle devant un spécialiste, Eric Haller, est-ce que tout ce que j'ai dit est totalement exact ou pas ?
Brigitte, oui, absolument exact. À un point près, c'est que vous avez dit que les pannes, peut-être tant mieux, bah quand même, c'est un peu exagéré. Alors c'est vrai que c'est pas grave.
Ben oui, c'était une façon de dédramatiser les choses, parce que je sais d'accord. Que ça prend beaucoup d'importance pour vous, messieurs.
C'est vrai, oui. Non, il est tout à fait exact et bien connu de tout le monde qu'avec le temps, l'activité sexuelle diminue. Après tout, nous n'étions peut-être pas faits pour vivre jusqu'à 60 ans, 70 ans, 80 ans, avant on mourait quand même assez jeune.
Bien sûr, bien sûr.
Donc peut-être qu'on mourait en pleine apogée sexuelle, c'est possible.
En tout cas, la moyenne de la mortalité des hommes avant le 20e siècle, c'était plutôt 40 ans que
80. Oh, oui, on a connu même
80 ans. Oui.
Absolument. Et puis, il y a toujours eu des exceptions. D'ailleurs, de grands vieillards au Moyen-Âge, il y en a quelques exemples célèbres, et qui étaient d'ailleurs célébrés, mais ils étaient rares. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Actuellement, il y a des hommes qui ont une santé sexuelle absolument extraordinaire à 80 ans, qui la revendiquent et qui peut-être la cultivent. Alors, y a-t-il de leçons à prendre de ces exemples ?
Il y a certainement quand même plusieurs paramètres, je veux dire, dans le fait qu'un homme va maintenir une sexualité active. Il y a certainement, bon, peut-être quelque chose de génétique, mais il y a peut-être aussi un entraînement, si je puis dire. On sait aussi que si on arrête sa sexualité un peu trop longtemps, ça peut plus de mal à revenir. Enfin, et ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand on parle de cette énergie sexuelle qui serait donc à son apogée vers 25-30 ans, et puis qui tout doucement après va baisser, mais en même temps, est-ce que c'est ça forcément la meilleure sexualité ? Est-ce que c'est forcément une pulsion débordante, ou est-ce que c'est pas finalement une compréhension de ce qu'est la sexualité ?
Mesdames, vous en êtes première juge. En tout cas, tout le monde rapporte qu'effectivement, avec le temps, comme dit la chanson, la sexualité s'affine, se raffine.
Je croyais que vous alliez dire
pratique.
Tout s'en va, vous savez la fameuse chanson de Léo Ferré, avec le temps.
Tout ne s'en va pas, forcément. Donc il y a effectivement le plaisir que l'on donne, le plaisir que l'on a, c'est quelque chose de finalement plus complexe que la simple pulsion telle qu'on peut la mesurer par... Pourquoi est-ce qu'on dit que les jeunes ont une sexualité plus florissante que les plus âgés ? Eh bien, par exemple, le temps nécessaire entre une éjaculation, donc la fin de l'orgasme, et une nouvelle érection, augmente avec l'âge, très, très clairement.
Et pourquoi ?
Écoutez, c'est sûrement des questions hormonales, mais je pense que on n'a pas encore une connaissance assez fine de tout ça pour vraiment décrire avec précision les mécanismes qui sont peut-être neurologiques, qui sont peut-être hormonaux, et puis plein d'autres interactions, le stress peut-être. Enfin, il y a sûrement beaucoup de choses qui peuvent jouer, qu'on ne connaît pas forcément.
Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est expliquer un peu plus clairement qu'est-ce qui provoque l'érection, et ça permettra de mieux comprendre tout ce qui est néfaste justement à cette érection.
Alors, qu'est-ce qui provoque l'érection ? Il y a deux grands chapitres ou deux grands stimuli. Le plus connu, c'est le désir, évidemment. Bon, j'ai pas besoin d'éclaircir ça. En gros, ça part du cerveau, des choses extrêmement complexes, et puis ça arrive au pénis et ça fait une érection. Donc ça, c'est le désir qui est conscient, qu'on ne maîtrise pas forcément. On ne maîtrise pas forcément une érection, mais on en est conscient. Et puis, il y a des érections réflexes qui se produisent essentiellement la nuit, pendant les phases de sommeil profond, dites de sommeil paradoxal. Et ça, c'est intéressant parce que il n'est plus question du tout de désir, il n'est plus question de libido même. Il est question de santé générale. Et c'est important parce que, puisque nous parlons du vieillissement, eh bien, la disparition, la réfraction des érections le matin, au réveil, est un signe d'altération des érections, mais je ne sais pas si on aura le temps aussi de le dire, d'altération de la santé en général. Et en particulier, ça peut annoncer un risque accru d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral. Donc on voit que l'érection est aux confins du désir et de la fonctionnement général de l'organisme.
C'est très important parce que finalement, c'est le baromètre de la santé de l'homme.
Oui.
Donc, c'est à prendre en considération pour tous ceux qui nous écoutent. Et si vous avez envie, évidemment, de poser une question précise, vous nous appelez au 0826 300 300. Mais tout simplement parce que, en fait, ce qui provoque l'érection, c'est des vaisseaux qui se gorgent de sang, hein,
oui.
Si je ne me trompe.
Oui, tout à fait.
Et donc, si ces vaisseaux ne se gorgent plus très bien de sang, c'est parce que peut-être le sang est moins fluide, peut-être parce que enfin, je veux dire, ça vient de quoi ?
Alors, il y a une grande maladie que nous connaissons qui s'appelle l'athérosclérose. Hein, c'est devenu maintenant, avant c'était la première, maintenant c'est la deuxième cause de mortalité dans un pays comme le nôtre, après les cancers. Mais en tout cas, ça reste un grand tueur et un grand pourvoyeur de handicap à travers les accidents vasculaires cérébraux. Eh bien, les premiers signes de cette athérosclérose, pratiquement, c'est l'atteinte de l'érection. Ce qui est peu connu, peu répandu comme connaissance médicale, aussi bien dans la population, comme d'ailleurs peut enseigner dans les facultés, on peut vraiment le regretter. Il faut rêver et il faut mettre en place une vraie médecine de l'homme. Et la vraie médecine de l'homme, c'est l'homme arrive devant son médecin et le médecin lui demande « Avez-vous bien bandé ce matin, monsieur ?»
Oui, oui, oui.
C'est le début de l'analyse de la situation clinique de tout homme, particulièrement après 50 ans.
Et donc, tout ce qui provoque ce genre de problème, je citais la cigarette,
oui,
en premier, hein, je crois, on le sait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'alcool, je suppose ?
Cigarette, alcool. L'alcool, c'est très, très complexe. Disons que l'addiction à l'alcool, oui, très, très.
Oui, d'accord, mais c'est pas deux verres de vin qui vont poser de problème.
Non.
D'accord. Donc, le diabète, oui, bien sûr.
Le diabète, l'hypertension artérielle, l'association diabète plus hypertension artérielle.
L'apnée du sommeil aussi, on m'a dit.
L'apnée du sommeil, vous êtes très renseigné et bravo, parce que c'est peu connu.
L'érection, c'est un domaine que je connais bien, oui.
C'est vrai, j'ai affaire à forte partie. Oui, l'apnée du sommeil. Et j'ai eu récemment un patient de 30 ans qui ronflait. Donc je lui ai demandé, est-ce que vous ronflez ? Il m'a dit oui. On a fait, vous savez, une recherche d'apnée du sommeil qu'il avait. Il a été traité pour son apnée du sommeil et ses érections sont revenues. C'est un cas, hein. On peut pas.
Oui,
mais il y a une littérature extrêmement abondante qui montre bien que, en rétablissant, en corrigeant l'anomalie de l'apnée du sommeil, effectivement, on peut diminuer la proportion d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux, parce que ça joue sur toutes les artères, et puis contribuer à rétablir les érections. Mmh.
Et vous parliez du ronflement, si c'est juste un homme qui ronfle, c'est problématique aussi ou pas ?
Ah, il faut se méfier, oui. Alors, l'idéal, mesdames,
un homme qui ronfle, on n'a pas envie de lui. Hein.
Bon, je sais que ce n'est pas très populaire.
Mais non, excusez-moi, le nombre de femmes qui le disent et qui veulent faire chambre à part.
Bien sûr.
On parle vrai, hein, ici.
C'est bien, oui, j'entends, Brigitte. Alors, si, mesdames, votre homme ronfle et que vous avez décidé de faire chambre à part, allez quand même l'observer dans la nuit et voyez si en plus des ronflements, il y a des pauses respiratoires.
C'est ça, la peine c'est du sommeil. Oui.
Et si c'est le cas, il faut vite consulter. Et même pour tout ronflement, il faut prendre l'avis d'un spécialiste.
Oui, on ne sait jamais, il vaut mieux prévoir tout ça. À mon avis, à 16h, beaucoup de femmes qui n'étaient pas contre les hommes d'un certain âge vont devenir cougars. J'ai l'impression. Non, mais je plaisante, mais en même temps, c'est une émission qui est à la fois basée sur la capacité érectile de l'homme, bien sûr, mais c'est aussi une manière de faire prendre conscience aux hommes que... peut-être que prendre soin de soi, ça fait partie des choses importantes de la vie.
C'est aussi prendre soin de l'autre, pour citer l'enflement.
N'est-ce pas ? Éric Haller est avec nous jusqu'à 16h et vous pouvez bien sûr nous rejoindre si vous avez des questions à lui poser. Dans un instant, c'est Marc qui va être avec nous à l'antenne. À tout de suite.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
En compagnie de Éric Haller, professeur de chirurgie vasculaire, nous évoquons donc la sexualité de l'homme, de sa puberté jusqu'à sa mort. Marc est avec nous. Je crois que donc là, particulièrement aujourd'hui, je vais à chaque fois demander votre âge. Bonjour Marc.
Bonjour Brigitte et bonjour Éric.
Bonjour Marc.
Bon, donc j'ai 42 ans.
Ah bah tout va bien alors.
Oui, en plein dedans.
Vous êtes au sommet, vous allez redescendre.
Alors je vais en profiter.
Voilà, bravo, bien.
Aujourd'hui, elle est terrible, c'est vraiment...
Mais elle est toujours taquine, Brigitte.
Oui, c'est vrai, c'est un peu ma manière d'être. Mais non, c'est pas vrai du tout, parce que 42 ans, vous pouvez être encore en pleine forme pendant 30 ans. Hein.
Oui, je sais, mais j'ai bien l'intention de tout faire pour y rester.
Bah, de toute façon, pour l'instant, tout va bien.
Alors, tout va bien. Moi, j'ai commencé ma vie sexuelle assez tard, c'est-à-dire à 21 ans.
C'est vrai, c'est plutôt tard, oui.
C'est plutôt tard. Mais donc, ça fait 21 ans que, par contre, c'est un festival.
Donc, pas encore eu de panne.
Zéro panne. Non, zéro panne. Et une vie sexuelle plutôt que je qualifierais de très épanouie.
Comme une voiture japonaise, quoi. Jamais de panne. Formidable.
Un peu hybride, peut-être. Je dis n'importe quoi. Mais quand vous dites particulièrement épanouie, vous entendez quoi par là ?
Eh ben, que ce soit au niveau de la fréquence des rapports ou de la qualité de ceux-ci... Il y a quand même beaucoup de choses. Il faut se dire aussi que ma femme et moi on est très imaginatifs. Mm-hmm. Donc on fait énormément de mises en scène, des petits jeux de rôle, des jeux de stimule où on se stimule mutuellement, que ce soit par des tenues ou des accessoires. Et c'est vrai que du coup on tombe pas dans une espèce de routine de d'amour un peu vanille, je dirais.
Oui, vous avez une sexualité qui surprend. Parce que l'un voilà. Et l'autre, vous faites ce qu'il faut pour vous surprendre. Parce que c'est ça, quand on est en couple, arriver à maintenir une très bonne sexualité, il faut un petit peu y travailler.
C'est ça, c'est de l'entretien quasi quotidien.
Mmh. Et en général, si les deux s'y mettent, ça marche mieux que quand il n'y en a qu'un des deux qui a cette charge-là.
Absolument. Mmh. Absolument.
Oui, bon, bah voilà, donc... Mais est-ce que vous aviez déjà entendu ce qu'a dit Éric Haller, justement, que l'érection du matin était le signe de la bonne santé ?
Ah bah, donc il faut croire que je suis en bonne santé tous les matins.
Oui, mais on l'a entendu et on n'en doute pas, Marc. Mais est-ce que vous aviez déjà entendu cette information qui est quand même, me semble-t-il, essentielle ?
Ah oui. Pas du tout.
D'accord.
Alors, une découverte.
Vous la répandrez autour de vous ?
Non, mais vous voyez, c'est quand même incroyable, parce qu'au fond, j'ai l'impression que si on questionnait les hommes, il y en a à peine 1% qui est au courant de ça.
On vit une sorte de Moyen-Âge concernant la médecine de l'homme. C'est terrible. C'est un peu comme il y a 50 ans, le cancer du sein. Depuis,
on a pris les choses en main.
On a pris les choses en main. On a appris aux femmes même à se palper, etc. Et ça a sauvé des vies. Là, il faut faire pareil. pour les hommes, pour leur érection du matin.
Non, mais ça qui se palpe, je n'en doute point.
Et vous n'en croyez guère.
Je n'en doute point, mais en revanche, c'est une information essentielle, oui. Marc, vous voyez.
Oui, tout à fait.
Bon, Brigitte et Sud Radio, vous contribuez, vous êtes peut-être l'un des meilleurs contributeurs actuels pour répandre cette information.
Et est-ce que vous saviez, par exemple, Marc, que fumer, c'est pas bon pour votre santé, ça vous le saviez, mais pour votre érection ?
Je le savais également, de façon très logique. Hein, le tabac bouche les artères et la verge en dispose.
C'est même marqué sur les paquets de cigarettes.
Que c'est bon pour l'érection.
C'est mauvais pour l'érection, oui.
Ah oui.
Oui. Sur les messages de prévention qu'il y a sur les paquets, oui, c'est noté dessus. Bien.
Je sais pas si ça sert beaucoup, malheureusement.
Alors, pardon, je vous laisse parler.
Non, je disais, en tout cas, ça ne m'a pas persuadé d'arrêter de fumer, malheureusement.
Ah,
un jour,
bon.
Peut-être, j'y viendrai.
J'allais dire que c'est actuellement le bras de levier. En tout cas, l'argument...
L'image est belle.
L'argument le plus efficace vis-à-vis, alors peut-être des plus jeunes, pour les inciter à arrêter de fumer. Ça marche assez bien. Alors, réfléchissez quand même. Vous avez une sexualité formidable que vous entretenez comme un jardinier imaginatif. Pensez à l'engrais. Donc, songez à arrêter de fumer, peut-être.
Et le jeu en veut la chandelle, si je peux me permettre.
Grande forme aujourd'hui.
Non ?
Ah oui, c'est sûr.
Alors, ça serait intéressant, pardon Marc de vous interrompre, ouais. Mais parce que c'est un témoignage intéressant, justement. Donc vous êtes bien informé, vous aimez la sexualité, vous savez qu'il y a ce problème. Qu'est-ce qui fait que, finalement, à votre avis, vous-même, n'avez pas arrêté de fumer ? C'est pas du tout une question piège, hein. C'est qu'est-ce qui fait que ?
En fait, tout simplement parce que j'aime ça. Oui. C'est-à-dire que je prends
plus
énormément
que le sexe
de plaisir avec... Pardon ?
Plus que le sexe ?
Bien sûr que non.
Ah bah alors ?
Bien sûr que non.
Mais en tout cas, c'est le plaisir. Vrai. C'est le plaisir.
Voilà, ouais. C'est le plaisir avec le café le matin ou avec une bière le soir. C'est un bon accompagnement, c'est des moments plaisir aussi.
Et c'est le plaisir ou la dépendance ? Parce que c'est compliqué hein, entre... avoir le plaisir de fumer une cigarette et puis aussi de ne pas pouvoir s'empêcher de sortir la cigarette de son paquet juste avant le café.
Ah oui, non, mais après je sais très bien que j'en suis dépendant, hein. Ça, j'ai pas de souci à le reconnaître.
Mais
vous en êtes à combien de cigarettes par jour par exemple?
Entre 10 et 15.
Oui, donc c'est beaucoup.
Ouais.
Vous voyez, on pourrait, si nous, collectivement, dans un pays comme le nôtre, si nous voulions vraiment progresser, ça serait très important de travailler tous ensemble sur ça, c'est-à-dire lier santé sexuelle, mais très, comme une promesse, comme quelque chose de bien, et hygiène de vie, dont le tabac, on pourrait faire des choses, je pense, extrêmement efficaces. Bah, c'est un appel aux autorités.
Oui. Mais est-ce que, parce que bon, Marc, vous aviez compris, vous l'aviez vaguement entendu, tout ça, mais est-ce que vous en aviez réellement pris conscience ?
Non, pas vraiment.
Donc, voyez, je pense que c'est ça l'intérêt de l'émission d'aujourd'hui. Mmh. C'est parce que, bon, vous êtes jeune, 42 ans, franchement, si ça se trouve, pendant 20 ans, vous n'aurez aucun problème. Mais il est certain que, passé 60 ans, le fait d'avoir beaucoup fumé risque fort de créer des difficultés érectiles plus grandes que pour quelqu'un qui n'aurait pas fumé. Enfin, je veux dire, je ne vois pas faire de pari stupide et puis je ne vous le souhaite pas. Mais il y a quand même
une probabilité
forte. Donc ça vaut quand même le coup d'y réfléchir.
Alors on fait un pari.
Vous avez raison.
Dans 3 mois, vous rappelez Brigitte Lahaye en ligne et pour dire que vous avez arrêté de fumer.
De toute façon, je ne tiendrai pas 3 mois avant de rappeler Brigitte, c'est tellement sujet intéressant.
Non, mais ce que je trouve aussi important, parce que parfois, soi-même, on reste un peu dans le déni, même si on a entendu les choses. En revanche, pour les femmes qui nous écoutent, Éric Allaire, peut-être que c'est le message que vous pouvez transmettre, parce que les femmes prennent presque plus soin de la santé de leurs hommes que les hommes. Moi, j'ai souvent remarqué que c'était l'épouse qui va presque obliger son mari à aller faire une consultation, notamment, par exemple, vous parlez de l'apnée du sommeil, donc ou pour les ronflements, etc. Donc, c'est peut-être important que les femmes comprennent bien ça. Vous avez un mari qui fume. Bon, c'est peut-être que ça ne vous dérange pas, mais le jour où il bandera plus, ça vous dérangera peut-être.
Non, c'est une excellente remarque. D'ailleurs, nous essayons d'axer nos campagnes d'information sur les érections vers les femmes autant que vers les hommes, parce que, après tout, c'est une question mixte.
Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'on va essayer tout au long de ces deux heures de... pas de faire la leçon parce que c'est pas notre truc.
Et puis,
de toute façon, c'est pas en. Enfin, moi, je sais que par expérience aussi, c'est pas en interdisant qu'on permet aux gens de sortir d'une addiction ou de changer d'attitude. Ça marche pas, ça.
Complètement. Bien au contraire. Si vous permettez, Brigitte, c'est très important ce que vous dites, parce que, en plus, en général, effectivement, pour sa bonne santé, on dit mangez pas de gras. Faites pas ceci, faites pas cela.
5 fruits et légumes par jour.
5 grammes, manger des pommes. Et ça, j'aime les pommes, pas tout le monde. Et donc, là, on a quelque chose qui est de l'ordre de la culture du plaisir à proposer pour améliorer sa santé. C'est formidable, c'est rare. Donc, profitons-en.
Profitons-en. En tout cas, merci Marc et bien mes amitiés à votre charmante femme qui, visiblement, a l'air de profiter de votre virilité. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec notre sexy news, Flore Chéri, qui nous rejoint et qui va nous parler de la sexualité des Français, qui a bien changé, semble-t-il.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant sexy news.
Eh bien, Éric Allard, nous retrouvons Flore Chéri. Alors, je crois que vous travaillez, enfin, je crois pas, je suis sûre, vous travaillez à Union.fr, qui fête ses 50 ans. Et donc, je crois que c'est pour ça que vous avez envie de nous faire un petit point sur la sexualité des Français depuis 50 ans. Hein,
Exactement. Donc, je travaille depuis 7 ans pour le magazine Union. Et demain sort donc le numéro spécial et 50 ans d'Union. Alors, ce n'est pas le seul magazine à souffler sa 50e bougie cette année. Le Point, L'Écho des Savanes et Picsou Magazine auront également 50 ans en 2022. Alors, je ne sais pas comment a évolué la vie de Picsou. Hein. Est-ce que la mare des canards a connu son lot de révolutions? Mais à la rédaction, alors que l'on connaît depuis 50 ans les histoires de sexe et les questions de lecteurs, il s'en est passé des choses dans la vie sexuelle des Français. Et pourtant, on a souvent l'impression que le sexe, c'est une constante, hein, une autoroute au milieu de l'Arizona. On ferait tous toujours la même chose dans nos chambres à coucher depuis la nuit des temps. Cuny ou fellation, pénétration ou branlette, missionnaire ou levrette, et puis dodo. Il n'y a pas beaucoup de virages, le paysage est toujours le même, et puis surtout, il n'y aurait jamais d'embouteillage. Alors, évidemment, je ne vous mentirai pas en disant qu'il y a 50 ans, on écrivait déjà des dossiers sur la fellation et que l'on écrit toujours aujourd'hui des dossiers sur la fellation. Elle nous a fait couler beaucoup d'encre, hein, cette fellation. Alors oui, il y a des constantes, mais le paysage change, il y a des routes de traverse et surtout, il y a des accidents que l'on n'envisageait pas. Le sida, par exemple, n'existait pas lorsque le magazine a été lancé et l'utilisation massive du préservatif devient la norme à partir des années 90 dans les histoires de sexe. Au lancement du magazine, il y a également beaucoup de témoignages de femmes qui n'ont connu sexuellement que leur mari, qui redoutent leur nuit de noces ou qui ne prennent pas vraiment beaucoup de plaisir au lit. Aujourd'hui, les témoignages de femmes sont beaucoup plus libres. Il est beaucoup plus rare qu'une femme se marie vierge et il y a beaucoup moins d'angoisse sur la nuit de noces, heureusement. Le couple aussi s'est réinventé. Il n'est plus aussi cloisonné que ce qu'il était. L'infidélité, qui était très exceptionnelle du côté des femmes au lancement du magazine, s'est petit à petit ouverte. Elle est moins mal perçue socialement. Il y a toujours une forme de tolérance un peu française, hein, sur l'infidélité, qu'elle soit aujourd'hui masculine et féminine, surtout si le couple est ensemble depuis un petit moment. Il y a de plus en plus de témoignages aussi de couples qui vivent dans des appartements séparés, de célibataires qui n'ont pas l'air de s'en plaindre, alors que cela pouvait être très mal perçu dans les années 70. Il y a aussi l'explosion des pratiques sexuelles considérées comme marginales, le libertinage qui flirtait avec le naturisme dans les années 70-80. Les clubs libertins ont connu un âge d'or dans les années 90-2000, puis ce sont les sites de rencontres libertins qui ont pris le relais. Le BDSM, dont personne ne connaissait rien, a commencé à séduire une population toujours plus grandissante à partir des années 90, quand le sexe pénétratif semblait encore un peu dangereux du fait du sida. Et puis il y a eu bien sûr les innovations, le Viagra, fin des années 90, qui apportait enfin une réponse aux problèmes d'érection, mais aussi les sextoys, en particulier à destination des femmes, qui ont participé à la démocratisation du plaisir à partir de 2010. Alors oui, on écrit toujours des dossiers sur la fellation au sein de la rédaction, mais on ne fait pas que ça. On écoute aussi un monde changé. Ce monde, il est discret, intime, parfois tabou, et on est fier de lui donner un moyen d'expression.
Et est-ce que on sait si en général la sexualité des Français est plus épanouie ou pas ?
À la lecture des textes, quand on regarde les archives, moi j'ai vraiment cette impression, c'est-à-dire que il y a plus de vocabulaire.
Ça c'est clair.
Ça veut dire que les personnes sont plus au courant de leur propre sexualité. Alors dans les années 70, c'est vrai qu'on publiait des textes qu'on ne publierait pas aujourd'hui, où il y avait des scènes qui étaient peut-être un peu limites en termes de consentement, avec des femmes qui ne prenaient pas vraiment de plaisir. Il y avait des histoires un peu bon. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un vrai plaisir, plus de légèreté, plus de, j'allais dire, de joyeuseté, on va dire, dans la sexualité. Je la trouve un petit peu plus solaire que ce que je lisais dans les années 70-80.
Je pense qu'en effet, le plaisir est moins tabou au fond, quelque part. Hein. Ça, je pense qu'on peut vraiment le dire. Ce qui est important, c'est 98, hein, je crois, le Viagra, qui arrive. Je pense que ça aussi, ça a été important, parce que avant, on ne parlait pas finalement des pannes des hommes, ou très peu. C'était quelque chose de... Moi je le sais, pour avoir rencontré des hommes d'un certain âge avant ces années-là, qui ne bandaient plus et qui étaient très tristes et qui n'en parlaient à personne et qui me faisaient ces confidences-là justement comme étant quelque chose qu'on ne peut pas dire, quoi. Ça a beaucoup changé, je pense.
Ça a énormément changé. Il n'y a qu'à voir le volume de prescription. Enfin, c'est le médicament, enfin la classe de médicament, il n'y a pas que le Viagra, le plus prescrit. Et le plus contrefait, ce qui est quand même un signe. Oui. Alors surtout, il ne faut surtout pas en acheter sur Internet, parce qu'en général, c'est du plâtre. Très attention.
Oui, donc il y aura l'effet placebo éventuellement.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Oui.
Et ça, et encore là, on parle de sexualité, mais on ne parle pas peut-être de ce dont vous parliez, santé sexuelle, voire même santé reproductive. On voit que le capital fertilité aussi des hommes a énormément baissé en 50 ans. C'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais c'est aussi un vrai sujet de société.
Ouais, tout n'est pas rose quand même dans l'évolution. Il y a d'un côté, j'aime beaucoup votre expression, l'aspect solaire de la sexualité qui est magnifié. C'est le post-68, mais post-post-post, bien digéré, et avec la recherche du plaisir des deux, qui n'était pas forcément peut-être une priorité il y a 50 ans. Donc ça, oui, c'est formidable. D'un autre côté, il y a l'irruption de la pornographie. Les dégâts extrêmement importants que ça fait chez les jeunes en particulier.
C'est dramatique, hein. Oui.
Avec le recul du d'âge de la première relation sexuelle, la diminution du nombre de rapports, il y a des enquêtes qui sont concordantes.
Les gens font moins
tout
l'amour,
l'Occident.
Ils font moins l'amour, et même jeunes. Hein. Oui. Et une augmentation considérable du nombre de célibataires et de divorces.
Bien sûr.
Et ça, c'est aussi pas tellement positif non plus, parce que bon, peut-être qu'on a une sexualité plus libérée, plus débridée, si je puis dire, mais est-ce qu'on est pour autant plus heureux ? C'est pas sûr.
Mais ça dépend, pas le problème ça dépend d'union. Du célibat, en fait.
L'union
par exemple,
parle
moi,
pas d'amour, hein, de toute façon.
Je
veux dire, c'est plus un magazine qui
parle vraiment de sexualité, c'est sûr. C'est le cœur du sujet.
C'est un magazine osons le dire, pornographique. Hein,
on assume cette terminologie. Maintenant, c'est vrai qu'en filigrane, il y a toujours ce rapport à l'autre qui est très important, et le rapport au couple l'est. Et le célibat, c'est vrai, il a augmenté, mais je le trouve plutôt positif, par exemple, sur la tranche d'âge 20-25 ans. Ça laisse aux jeunes personnes le moyen de faire des expériences avant de s'engager dans le mariage. Notamment, il y a des jeunes filles qui se mariaient très très jeunes, et on le retrouve dans les histoires, qui ont à peine 18-19 ans, qui sont déjà mariées. Je ne sais pas si c'est souhaitable. Mais c'est vrai qu'on voit aussi de plus en plus de personnes seules, âgées, isolés, qui sont en état de célibat, et ça aussi, ça peut être pour le coup inquiétant, parce que voilà, il y a une vraie misère sexuelle qui se développe, surtout sur les personnes âgées qui sont isolées.
Oui. Alors, vous avez peut-être une carte à jouer, en tout cas un rôle à jouer, parce que le problème de la pornographie en ligne, c'est l'addiction. exactement comme la cigarette, comme l'alcool. C'est les mêmes mécanismes neuropsychologiques. À l'inverse, on peut supposer que la forme papier avec des textes qui parlent de la santé sexuelle, eh bien peut-être que ça peut, je ne sais pas, aider cette population que vous avez décrite, hein, qui se trouve un petit peu en panne d'expérience sexuelle.
Oui, alors après, nous, on diffuse aussi du porno, donc on n'utilise pas que la matière texte, oui. Même si elle est très présente, on utilise différents formats, mais ça peut être le podcast audio et ça peut être aussi de la pornographie. Moi, je pense que la pornographie, ça dépend comment elle est consommée, peut-être qu'elle est mal consommée, ce qui fait des problèmes d'addiction aujourd'hui, mais elle peut être aussi, dans une certaine mesure et dans un cadre, quelque chose de bénéfique, voire de créatif pour un couple.
Oui.
Donc je pense qu'elle est mal faite, ou elle a été mal faite, elle essaye de se réinventer un petit peu aujourd'hui, cette pornographie, et Union y participe, hein, clairement. Mais oui, on peut être source, en tout cas, de créativité pour le couple.
Alors, il m'arrive de prescrire de la pornographie en consultation
à
des hommes ou des couples qui ont une interruption de sexualité prolongée ou qui ont des soucis de santé qui altèrent leur sexualité, comme étant une manière de redémarrer avec cette notion que l'appétit vient en mangeant.
Ça peut être le cas, oui. Après, s'ils en ont envie, encore une fois,
ouais.
La libido, souvent, ça part de soi. Mais
de toute façon, la pornographie, quelle qu'elle soit, moi, j'ai aucune envie de l'interdire à tout adulte qui a plus de 18 ans. Le problème de la pornographie, réellement, pour moi, c'est les enfants qui tombent sur ces images-là et qui sont encore vierges. Hein. C'est ça, le danger. Et là, en l'occurrence, Union n'est pas distribuée, j'imagine, de toute façon, aux enfants.
Non, c'est interdit, évidemment. On agit beaucoup pour la protection des mineurs. Puis, de toute façon, pas du tout notre cible. Mais il y a peut-être aussi d'autres problèmes qui sont la normalisation de la sexualité. C'est vrai que le porno, s'il est fait toujours de la même façon avec les mêmes acteurs, norme d'une certaine façon ce qu'on doit faire dans nos chambres à coucher. Puis il y a peut-être une responsabilité des plateformes de rendre un contenu, d'avoir un système d'addiction, puisque le principe des grandes plateformes, c'est de faire revenir et de le prendre captif.
Leur but, c'est de l'argent, hein. C'est pas de faire évoluer la sexualité des gens, hein, soyons clairs.
Mais un petit peu comme les sites de rencontres qui finalement préfèrent conserver les utilisateurs captifs plutôt que vraiment créer des rencontres amoureuses et participer à un épanouissement affectif de la personne. Finalement, ils préfèrent l'isoler, le conserver captif et le faire payer. Il y a peut-être aussi cette dérive sur les plateformes pornographiques qu'il faudrait étudier. Bon voilà, il y a tout un système en effet à revoir. Oui.
Oui, mais je pense que c'est à l'individu d'être conscient qu'il se fait avoir, hein, tout simplement. Moi, je pense qu'il faut, il faut rendre les gens plus responsables pour qu'ils puissent, qu'il y en ait moins qui tombent dans ces circuits addictifs. Enfin, moi, je crois, parce que empêcher ces plateformes de gagner de plus en plus d'argent, on n'est pas au pays des bisounours, hein, soyons clairs. Non?
Ou alors, il faut faire une pornographie d'État. Le service public de la pornographie.
On va remettre la redevance télé pour faire une.
Bah exactement, une bonne pornographie
de
qualité.
Une chaîne pornographique de qualité.
De l'ORTF.
Voilà. Oui, ce serait une bonne idée.
Non, mais l'information, à nouveau et encore, est quelque chose d'important parce qu'il n'est pas intuitif dans l'expérience. Que chacun peut avoir, que la pornographie peut être une addiction. Ce n'est pas quelque chose qui vient forcément à l'esprit. Donc il faut le dire, il faut le faire connaître.
Bon, on est addict à la pornographie quand on ne peut pas faire autrement que d'aller regarder quand on rentre chez soi ou même
par exemple,
son lieu de travail, etc. Là, c'est un premier signe d'addiction et donc il faut évidemment se faire aider. Merci beaucoup, Fleur Chérie,
en tout cas,
ce bel anniversaire. Et puis, happy birthday, Union.
Bon anniversaire.
Bonjour Aurélia.
Bonjour.
Bonjour
Eric. Bonjour Eric.
Bonjour Aurélia.
Alors Aurélia, est-ce que vous avez déjà été avec un homme qui a une panne?
Oui, ça m'est déjà arrivé.
Bon, et alors, comment vous avez réagi?
Ben, normalement, on va dire.
C'est-à-dire?
Je dirais normalement. C'est avec compréhension et essayer de comprendre ce qui peut se passer, mais c'était chez un partenaire qui avait un trouble de l'érection de toute façon. Donc c'est quelqu'un avec lequel il fallait aller en douceur et vivre une sexualité plus féminine, je dirais. Voilà, mais qui, avec confiance et accompagnement, ça se fait. Voilà.
Ça, le problème s'est réglé, donc.
Ben, le problème s'est réglé. Alors, je dirais pas que c'est un homme qui a été à cette époque-là, qui avait une, par rapport à d'autres partenaires,
une virilité, une érection, triomphante, voilà. Oui.
Mais je pense qu'il y avait quelque chose, un trouble dans l'enfance qui était bloqué là, qui se manifestait. Mais avec accompagnement, il arrivait à avoir une relation sexuelle
correct.
Positive, correcte. Mmh. Voilà. Après, il ne faut pas leur demander non plus d'être présent comme quelqu'un qui n'en a pas. Voilà.
Oui, je vois, c'est joliment dit, hein, Eric Heller, c'est
oui,
joliment
oui.
dit, on a très bien compris le fond de votre pensée, si je puis dire. Deuxième question, quelle est la partie de votre corps que vous préférez, Aurélia ?
Mes jambes.
Vos jambes, d'accord. Alors j'espère que vous mettez souvent des jupes.
Très souvent.
N'est-ce pas ? C'est bien, bravo. Vous mettez en valeur vos atouts, comme on dit. Et troisième question, bah non, je ne veux pas vous poser cette question-là, parce que ça serait trop en rapport avec la première, je ne voudrais pas être désagréable avec cet homme. Donc j'en trouve une autre. Est-ce que vous êtes hétéro à 100% ou un peu bi ?
À 100%
hétéro. 100%.
Bon. 100%.
D'accord, pas de nuance. Eh bien, vous pouvez poser une question à Eric Haller, il vous écoute, allez-y.
Alors moi, la question qui m'intéressait, c'est de savoir un petit peu comment évoluer avec l'âge, justement la sexualité, à la fois dans l'esprit, mais physiquement, des hommes à partir d'un certain âge, voilà, de 40, 50 ans, voire plus, qui ne le disent pas forcément, et j'aimerais avoir votre...
Alors, vous allez répondre après la pause, Eric Haller, comme ça on fait une petite pause et vous aurez tout le temps pour répondre.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Eric Haller, qui est avec nous, professeur de chirurgie vasculaire et auteur de ce livre « Guide de l'impatient » aux éditions Booklis. Si vous voulez mieux comprendre justement dans ce livre, vous avez toutes les réponses assez pratiques. Mais d'abord, Aurélia vous a posé une bonne question. Eric Haller, je vous laisse avec elle.
Alors, il y a des statistiques, hein, c'est de cela que nous allons partir, parce que ça décrit la généralité, donc le plus probable. Il y a effectivement une baisse, tout prend plus de temps. La montée du plaisir prend plus de temps. Le temps, nous l'avons dit tout à l'heure, entre une éjaculation et la possibilité d'entreprendre un deuxième acte sexuel avec érection, ce temps s'allonge. Du coup, le temps entre deux relations sexuelles, où la renaissance du désir augmente également. Ça, c'est une chose qui est constante. Donc, dans la relation sexuelle, c'est certainement ce qui frappe le plus et ce qui intéresse le plus le couple, d'une certaine manière. Ça veut dire que, eh bien, susciter le désir, susciter l'érection devient un peu plus difficile, alors j'espère pas laborieux, mais enfin c'est une autre entreprise qu'avec un homme de 20 ans ou de 30 ans. Voilà un point vraiment extrêmement important. Ensuite, le désir peut s'émousser. Et puis il y a des côtés positifs. Alors l'un des côtés positifs, c'est qu'en général, le temps entre, disons, le début de la stimulation et l'éjaculation augmente. Donc c'est pas mal. Et ça permet d'ailleurs à des hommes qui ont une éjaculation rapide. Alors je rappelle que l'éjaculation précoce, c'est moins d'une minute après la pénétration, mais que en moyenne, ce temps entre la pénétration et l'éjaculation est de l'ordre de 5 minutes, hein, dans les différentes enquêtes. Donc, il y a une possibilité d'augmenter finalement la durée du plaisir avec un homme plus âgé.
Vous connaissez cette blague, Aurélia, hein, les hommes à 20 ans, c'est matin, midi et soir. À 40 ans, c'est mardi, mercredi, samedi. Et puis à 70 ans, c'est mars, mai et septembre. Vous ne la connaissiez pas ?
C'est cruel, mais c'est une bonne description.
Elle est pourtant très très connue. Vous ne la connaissiez pas non plus, Eric Haller ? Ah bah écoutez.
Non.
Voilà.
Et juste peut-être une toute dernière chose. En tout cas, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que quand le désir s'émousse, quand les érections s'émoussent, bah, il faut faire un bilan de santé. Il faut doser la testostérone parce que votre question concernait le vieillissement de l'homme. Eh bien, avec l'âge, le taux de testostérone peut baisser et tout ça, ça se soigne, si je puis dire. Ça se compense, en tout cas.
Aujourd'hui, on a en tout cas pratiquement tout ce qu'il faut pour qu'un homme garde des érections.
Oui.
Alors, c'est pas toujours des choses très, très simples, mais en principe, on a
c'est
tout
pas
ce
non
qui...
plus si compliqué. Enfin,
non,
que la médecine féminine.
Exactement. Donc, il faut pas laisser la bête s'endormir. Merci beaucoup, Aurélia.
Merci.
Merci à vous. Alexandre est avec nous. Alexandre, on vous prendra peut-être un peu avant et un peu après les infos, puisqu'on est presque en fin de première heure, mais on vous garde le temps que vous avez besoin qu'on vous garde. Bonjour Alexandre.
Bonjour Brigitte. Bonjour Eric.
Bonjour Alexandre.
Moi c'était un peu pour vous expliquer un petit peu l'évolution de ma sexualité. Je suis âgé de 49 ans. Voilà, et puis je pense que la sexualité d'homme épanouie à plusieurs étapes, qui commence d'abord par la découverte,
Oui.
Et puis après la partie, où on s'installe, où on commence à comprendre un petit peu comment on fonctionne et comment on a besoin d'être stimulé, voilà. Et puis après, il y a la partie vraiment où on s'installe, ce que j'éprouve maintenant, c'est-à-dire à 49 ans, c'est d'être un peu moins, pour m'exciter, j'ai besoin d'être moins dans ma tête et plus dans mon corps. Donc c'est vraiment des étapes différentes.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'avant, j'avais besoin de stimuler, la tête. C'est-à-dire que j'avais besoin de fantasmer, de prévoir des scénarios, de faire des tas de choses. Et maintenant, je me rends compte que cette partie-là est plus... maintenant, je me laisse aller.
Vous êtes dans vos sensations maintenant.
Exactement.
Non, vous laissez monter, laissez monter vos sensations et vous n'avez... C'est intéressant ce que vous dites, Est-ce que vous avez regardé beaucoup de porno jeune, justement?
Oui, bien sûr. Ma sexualité a été faite avec ça.
Merci, Alexandre. Et oui. Et voyez, c'est là où on voit vraiment les méfaits de la pornographie. C'est-à-dire que c'est très cognitif, la sexualité. Et quand on commence sa sexualité en s'excitant, en regardant des filles à poil, parce qu'après tout, c'est ça, on a l'habitude de ça et finalement on s'éloigne de ces sensations qui sont là pourtant dès le départ et qui sont même très fortes au départ puisque la pulsion sexuelle chez un jeune homme elle est très forte. C'est vraiment dommage, je dis pas ça pour vous et je vous juge pas du tout Alexandre, comprenez bien, mais je trouve ça dommage parce que c'est heureusement vous avez su vous avez cette chance d'avoir réussi à partir dans vos sensations, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alexandre, on vous garde pour vous reprendre après les infos, mais là, il va falloir laisser la place aux infos, donc on vous reprend tout de suite après. Vous pouvez vous aussi appeler au 0826 300 300. Je vous ferai réagir aussi, Eric Haller, sur cette question de la pornographie, parce que je trouve que le témoignage d'Alexandre, il est vraiment intéressant. Et puis, je vous donne la petite devinette, comme ça, vous vous ennuierez pas
les infos. J'appréhende toujours.
Elle est très intéressante. C'est sa femme, c'est la femme qui regarde un Top Chef. Vous savez, cette émission... Et alors son mari lui dit, c'est ridicule, pourquoi tu regardes Top Chef, puisque tu ne sais même pas faire la cuisine. Alors, qu'est-ce que va répondre sa femme? La réponse après les infos.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et c'est reparti pour cette deuxième heure. Nous prenons soin de la santé des hommes et nous avons notre baromètre, notre thermomètre. C'est quoi? C'est le pénis, tout simplement. Pas d'érection le matin, santé qui va pas bien.
Bravo, beau slogan.
N'est-ce pas? Alors on va redonner la parole à Alexandre parce que son témoignage est quand même assez intéressant. Oui. Mais d'abord, vous avez réfléchi à ma devinette. On est dans le sujet. Sa femme regarde Top Chef, son mari la critique en lui disant que c'est vraiment pas la peine de regarder puisque de toute façon elle sait pas faire la cuisine. Qu'est-ce qu'elle lui répond?
Toi tu me regardes bien et tu sais pas faire l'amour.
Ben, pour toi, tu regardes bien des films porno et tu ne sais pas faire l'amour. Hein, bien sûr, on en est là. Hein. Voilà la belle ambiance dans ce couple. Ouais, on va retrouver Patrick Lemoine aussi, hein, comme chaque jeudi, qui nous décrypte le psychisme de certains hommes célèbres. Mais Alexandre, est-ce que vous aviez compris pourquoi votre sexualité avait évolué ou pas ?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mm. Bah d'ailleurs parce que aussi, je pense que c'est le cycle de l'âge qui est un peu, enfin qui permet de faire ça. C'est de l'apprentissage.
Bah, pas tellement, parce que si on va sur un plan comme ça général, normalement le jeune homme, il est très dans ses sensations, et d'ailleurs tellement dans ses sensations qu'il éjacule très rapidement et il s'intéresse qu'à sa pulsion et il a toujours envie et il s'occupe pas beaucoup de sa femme. Et au fil du temps, il a besoin de s'exciter sur sa femme pour être mieux dans sa sexualité. Donc c'est pas tellement ce que vous nous avez raconté.
Oui, moi, mais je veux dire que comme on cherche un petit peu, enfin quand on est jeune, comme vous dites, on regarde les films, on apprend, on regarde, on pense découvrir mm-hmm. des choses.
Ouais.
Et là, on se rend compte que mentalement, on s'excite beaucoup plus vite que la femme en fait en elle-même. Mm-hmm. Quand on arrive à l'acte, en fait, on est déjà beaucoup plus en avance.
Ça,
et c'est pour
clair.
Ça que ça, ça occasionne aussi. Tandis que là, dans cette phase maintenant, où moi, comment je vis ma sexualité maintenant, je pense qu'on part au même niveau.
Ben c'est bien.
C'est ça, on part au même niveau. Donc, comme la femme a besoin, naturellement, de qu'il y a une montée plus lente que l'homme, mais là, on démarre vraiment ensemble. C'est pour ça, moi, c'était mon problème de départ. C'est-à-dire que j'étais fort excité et tout ça. D'ailleurs, Bruno Martin, j'ai retrouvé une solution de lui à l'époque sur CD.
Oui, absolument. Il a lancé un très bon CD sur l'éjaculation
rapide. Exactement. Et j'avais acheté ça parce que j'avais ce problème-là. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment une. C'était plus un. Voilà, c'était plus que j'étais vachement en avance en fait sur ça.
Ouais. Oui.
Par rapport à...
Et ça vous a certainement aidé, en effet, à être mieux dans vos sensations. Oui.
Bien sûr. Et maintenant, voilà, c'est ça. Maintenant, je suis vraiment dans mes sensations et dans tout ça. Après, je pense qu'aussi, cette période, maintenant, ça fait quelques années, enfin, ça fait... où on est en milieu naturel. C'est-à-dire qu'on n'a plus le milieu urbain, on n'a plus tout ça. Et c'est vrai que moi, le boulot, par exemple, me stressait énormément.
Oui, ce qui n'est pas bon pour la sexualité, le stress.
Exactement. Et c'était pour moi aussi un défouloir un peu, la sexualité. Donc c'était pour faire sortir ce stress en fait que j'avais de la vie au travail. Et donc j'utilisais aussi le sexe pour ça. Et au niveau excitatoire, j'avais besoin de me décharger comme ça.
Mmh. Donc votre hygiène de vie a évidemment énormément amélioré.
Exactement.
Et votre sexualité de ce fait aussi.
Mmh. Tout à fait. Et aussi, on peut aussi dans la nature, maintenant vu qu'on est assez isolé, on peut aussi faire l'amour dehors, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire en milieu urbain.
Moins facilement.
Et donc être vraiment à l'écoute de son corps, vraiment. C'est-à-dire on peut sentir le vent sur soi, on peut, voilà. Ouais. Et c'est d'autres façons de...
Le témoignage que vous apportez est, je trouve, extrêmement intéressant et vivifiant et sûrement un enseignement pour tout le monde. Parce que finalement, la question du jour, c'est comment, avec l'âge, finalement, on peut, à l'extrême, utiliser l'âge et la maturité pour augmenter l'épanouissement sexuel. Et donc, vous en livrez un témoignage important. Et il y a un point que vous avez donc souligné tout à fait au début, c'est finalement cette découverte de votre corps et de vos sensations. Et je dirais que à l'opposé de ça, il y a le fantasme éventuellement amplifié ou entretenu par la pornographie qui n'a rien à voir avec le réel. Et je nous racontions quelque chose avec Brigitte pendant la pause que je trouve absolument fascinant et que je ne comprends pas. Vous savez qu'il y a des hommes de moins de 25 ans qui n'ont pas du tout d'érection pour des problèmes de fuite veineuse, un problème médical, purement de tuyauterie, si vous me passez cette expression triviale. Et c'est beaucoup, hein, c'est 1 à 2% des jeunes hommes qui ne peuvent pas avoir de sexualité. Et ce qui est extrêmement perturbant, c'est que quand on leur demande quand ils ont découvert ce problème, pris conscience de ce problème, mais en fait, ils ne disent pas c'est depuis le début de la masturbation ou des tentatives de masturbation. Ils disent c'est à partir du moment où j'ai eu une première relation avec une compagne. Et c'est quand même très étonnant que le fait de visualiser de la pornographie pour ces jeunes hommes ne leur a pas permis de comprendre ce qui leur est arrivé.
D'identifier leur incapacité à être en érection. Mais peut-être qu'ils arrivent quand même à éjaculer, même s'ils ne sont pas en érection.
Oui, c'est vrai, bien sûr.
Donc le plaisir étant là, ils ne se posent pas plus de questions que ça.
Il y a ça, mais c'est quand même contre-intuitif, c'est étonnant. Enfin, moi, ça me surprend énormément.
Bien sûr que c'est étonnant.
Et ça montre, et vous le disiez tout à l'heure, Brigitte, ça montre à quel point l'image n'a rien à voir avec
le réel
et l'expérience du corps que vous nous avez décrit.
Mais peut-être tout simplement parce que, enfin, Alexandre, quand vous regardiez ces films, bon, vous n'aviez pas de sentiment pour ces femmes que vous avez vues sur l'écran.
Non, pas forcément, non.
Bon, donc pourquoi avoir une érection si de toute façon on éjacule? Vous voyez ce que je veux dire, Eric Allaire?
Oui.
Ils avaient le plaisir, ils n'avaient pas l'érection, mais quelle importance, puisque de toute façon, la femme sur l'écran ne la réclame pas.
Je comprends.
Alors que quand on se retrouve avec une partenaire, si on n'a pas d'érection, là, on est jugé, ou on ne peut pas lui faire plaisir, et donc là, on en prend conscience. Enfin, je ne sais pas, hein, j'essaye de...
Non, c'est intéressant comme idée.
Non, c'est sûr. Puis il y a le syndrome aussi de la performance. Hein.
Voilà. Oui, parce que... Pardon.
Oui, allez-y.
Non, juste pour dire que malgré tout, c'est vrai que l'érection est l'un des véhicules du plaisir et pour faire plaisir à sa partenaire, à son partenaire, ça c'est tout à fait évident. Mais c'est aussi une image de soi, malgré tout, indépendamment du plaisir qu'on peut donner.
Oui, tout à fait.
Oui,
mais moi j'avais quand même... Enfin, j'ai eu un parcours aussi un peu atypique, parce que j'ai fait aussi du libertinage, des choses comme ça, où là, j'avais du mal à avoir une érection, en fait, bizarrement. Et j'ai dû, pour pouvoir pallier à ça et à ce truc, j'ai pris quand même ce que, en termes non médicaux, on appelle des compléments alimentaires, qui permettaient d'avoir une érection, voilà.
Oui, enfin ça c'est l'effet placebo, hein, Alexandre. Tant mieux, ça a marché. Mais je vois pas comment des compléments, si les compléments ça peut aider à avoir une érection. Je vois pas comment des compléments alimentaires peuvent provoquer une érection. Hein.
Il y en a qui contiennent du Viagra en fait.
Oui, d'accord. D'accord, oui, à ce moment-là, d'accord.
Par exemple.
Oui. Mais vous n'êtes pas assez exhibitionniste, c'est pour ça. Vous n'aviez pas envie de vous montrer en pleine érection, Alexandre. Un peu de pudeur.
Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, en fait. J'étais obligé d'avoir ça.
il faut être très fier de son pénis pour avoir envie de le montrer en érection devant tous les autres hommes et toutes les femmes.
Oui, c'est sûr.
Ouais.
Mais il y a aussi... Par exemple, moi, le libertinage, ça m'a apporté des choses parce que j'avais toujours ce syndrome du sexe, je veux dire, qui, par rapport au film, qui a toujours un souci. Et là, on se confrontait à la réalité et là, on se dit, ça va, on est pas mal lotis.
Oui, vous aviez vos collègues qui étaient...
Non, mais ça m'a...
Oui, ça vous a rassuré, vous vous êtes dit,
ça va,
je suis dans la norme, parce que c'est vrai que...
Exactement.
Cela dit, à l'écran, ils ont toujours l'air beaucoup plus grands.
C'est vrai,
il y a un effet zoom.
Oui, il y a un effet zoom. Et puis, il y a souvent des plans qui font justement tout pour que le sexe de l'homme paraisse encore plus puissant, encore plus grand et tout. Donc, tout va bien, Alexandre. Bravo, vous avez réussi à avoir une sexualité qui fonctionne bien. Merci en tout cas de ce joli témoignage. Bon.
Le bonheur est dans le pré.
Merci.
Eh bien, on va donner la parole à Patrick Lemoine avec un petit peu de retard. Je crois qu'on va faire une petite pause et on le retrouve après, comme ça ce sera plus simple. Et il va nous expliquer qui sont ces génies du mal.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes toujours avec Eric Allaire et nous évoquons la santé sexuelle des hommes au fil du temps. Mais d'abord, on va faire un petit intermède avec Patrick Lemoine qui nous a rejoint. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour Brigitte.
Merci d'être avec nous aujourd'hui encore pour parler de ce livre formidable, La santé psychique des génies, génies du bien, génies du mal, aux éditions Odile Jacob. La semaine dernière, nous avons évoqué les génies du bien. Vous n'avez pas de chance, Eric Allaire, aujourd'hui on va parler des génies du mal. Mais bon, et ils sont... Alors, on ne va pas parler ni d'Hitler ni de Staline, parce que je crois que beaucoup de gens en ont parlé. Vous savez quel serait le pire sanguinaire de l'histoire, Eric Allaire?
En nombre de morts?
Oui. Vous diriez qui?
Mao.
Eh ben non, il y en a un qui a fait mieux, c'est Pol Pot, n'est-ce pas Patrick Lemoine?
Alors, il faut que je rectifie. En nombre absolu, Eric a raison. C'est Mao qui a fait entre 60 et 100 millions. En pourcentage de son peuple, c'est Pol Pot de très loin. Et en pourcentage de la population mondiale, c'est Gengis Khan.
Ah oh.
Qui a quand même tué un dixième de la population de la planète.
Ah oui, c'est vrai que là, moi j'avais une belle image de ce... Gengis Khan, j'arrive jamais à dire son nom. Eh bien, vous m'avez cassé ma belle image.
Mais non, justement, mais non. Parce qu'effectivement, je l'ai mis dans les génies du mal, comme Mao, par exemple, et on s'aperçoit qu'ils ne sont pas tout noirs, ces mecs. Par exemple, Gengis Khan était un grand féministe. Il a énormément sauvegardé les droits des femmes. À l'époque, quand un mari était parti à la guerre, on avait le droit de violer sa femme. Ben, lui, il l'a interdit. Il a pu rassembler ses peuples. Il a pu introduire le raffinement de la culture chinoise parmi les Mongols. Donc ce type, qui faisait en fait comme tous les chefs de guerre de l'époque, eh bien, était beaucoup mieux compensé. Et puis si on parle de
Mao...
Notre
époque aussi, c'était une époque où on tuait comme...
On disait bonjour, puis on se tuait.
Ouais. Mais c'est vrai que vous lui donnez 5 sur 10 hein, quand même.
Oui. Quant à Mao, justement, puisque vous étiez dans la santé sexuelle des hommes, c'est extraordinaire, lui, puisque c'était un homme qui avait, à la fin de sa vie, il avait un harem de jeunes filles à peine nubiles, mais un grand harem dans un palais. Il avait une MST. Il avait des maladies de peau, il suintait, il avait des boutons de partout. En plus, il considérait que la chasse d'eau et les WC, c'était un symbole occidental. Donc, quand il avait des envies, il allait dans le jardin. Et ses gardes du corps le suivaient avec une petite pelle. Et sa grande phrase, c'était, j'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants qui écoutent, « Je me lave la bite dans leur chatte, si ça ne me fait pas de mal, c'est pas grave ». Wow. Oui, c'était un poète.
Je suppose que si les jeunes filles refusaient, elles se faisaient guillotiner. Enfin, guillotiner, là-bas, c'était...
Non, c'était un honneur. Avoir une MST par Mao était un honneur pour elles.
Sympa.
Mais en même temps, donc, ce sale type dégueulasse, grossier, égoïste, limite pédophile, etc., moi, vous savez, j'enseigne à Pékin, et bien les femmes le portent nu, parce qu'il a complètement transformé la femme. Lui aussi, ça a été un grand féministe. Il a également multiplié par deux l'espérance de vie, il a triplé ou quadruplé le produit intérieur brut, donc ce type n'était pas non plus tout noir. C'est difficile, en fait. Effectivement, Pol Pot est tout noir. Le roi Chaka des Zoulous est tout noir. Mais il n'a pas tant que ça.
Oui, Pol Pot, là, vous n'avez aucune indulgence. Hein.
Non, aucune. Bah, Chaka aussi qui est éventré.
0 sur 10, la note que donne Patrick Lemoine. Oui.
Bah, Chaka qui éventré des femmes qui étaient enceintes de son peuple, si c'était pendant le deuil de sa mère, c'est pas mal non plus.
Mais c'est vrai que Mao a une très mauvaise réputation et quelque part, vous êtes un peu plus indulgent dans ce que vous en dites, en tout cas.
C'est à force de discuter avec les Chinoises à Pékin, parce que disent qu'il y a du temps de leur grand-mère.
Vous avez un faible pour les Chinoises, Patrick Lemoine?
Pour les Indiennes, que pour, je ne sais pas, les Africaines, non, je ne fais pas de sélection.
Et alors, ce qui est intéressant dans votre ouvrage aussi, quand vous parlez des génies du mal, c'est que vous rapportez cette fameuse étude de Stanley Milgram, qu'on voit dans I comme Icar d'ailleurs, le film d'Henri Verneuil. Et c'est vrai qu'elle n'est peut-être pas si connue que ça. Eric Allaire, vous la connaissez peut-être ou pas? Non? On va peut-être raconter-la à nouveau, Patrick Lemoine. Vous la racontez très bien dans ce livre.
Ouais, une expérience qui est absolument terrifiante, qui a été faite par un psychologue. Ça a été très contrôlé, filmé, et ça a été refait par la suite, et c'était encore pire avec une animatrice télévision qui montrait que les animatrices ont encore plus de pouvoir que les médecins. Alors l'histoire est simple, on recrute des volontaires en leur disant qu'ils vont participer à une expérience sur la douleur. Et donc, il y a des comédiens, mais eux, ils ne savent pas que c'est des comédiens, qui sont avec une espèce de précieuse chaise électrique, et on dit au type « appuyez sur le bouton ». Et il y a une fausse décharge, alors eux, ils croient que c'est une vraie décharge, et le comédien saute en l'air. On augmente la tension, et ils sautent encore plus en l'air. Et à la fin, il y a des boutons rouges, et le choc peut être létal. Appuyez, c'est pour la science. Et il y a, je ne sais plus, c'est 70-75% des gens, c'est-à-dire de nous, en fait, parce que tout le monde est un bourreau ordinaire. C'est ce que prouve cette expérience, c'est qu'on est tous capables, s'il y a un argument d'autorité, d'infliger des tortures, parce que les types étaient des bons comédiens, se roulaient de douleur, suppliaient qu'on arrête, et les mecs, ils continuaient quand même à appuyer sur le bouton. Et ça, ça fait peur, parce que bah, ça explique pourquoi les capos dans les camps nazis, qui étaient des braves gens ordinaires, ont torturé, affamé, massacré les juifs et les homosexuels et les gitans, qu'en fait, tout le monde pourrait être un bourreau ordinaire. Et ça, ça fait froid dans le dos.
Et alors, vous, pour vous, l'hypothèse, c'est que l'être humain appartient à une espèce grégaire, comme le gnou, comme le gnou. On compare au gnou, Patrick Lemoine, voilà.
Oui, oui. Sympathique. Je crois qu'on a un côté gnou, effectivement, où est tourneau, quand ils veulent en compagnie. C'est-à-dire que, à partir du moment où le chef dit qu'il faut le faire, ben, on fait. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le procès de Nuremberg, des dignitaires nazis, c'était leur défense. C'est-à-dire, ben oui, c'est le chef qui m'avait dit de faire, donc moi, je suis un Allemand, je suis discipliné, et donc je fais.
Remarquez, c'est ce qu'on fait avec l'armée, hein. On les...
Absolument. Absolument.
S'ils commencent à réfléchir, c'est plus possible. Oui, hein.
Oui.
Ouais.
Oui, il y a, non, il y a un présupposé.
Oui, ouais, mais nous sommes des prédateurs, il ne faut pas l'oublier. On est des sales bêtes quand même.
Oui, ça se voit sur les réseaux sociaux. Hein. Le lynchage par réseaux sociaux, c'est vraiment un phénomène de meute qui fait froid dans le dos. Puis c'est quelque chose qu'on observe presque quotidiennement. Ça, c'est...
Oui, alors qu'on a tous fait plus ou moins à l'école quand on était petit, en primaire. Moi, j'ai honte quand je me rappelle certains de mes comportements et certains de mes petits copains. Quand on prenait une victime, et puis on la lâchait que quand il se mettait à pleurer. Quand j'y repense maintenant, mais je me dis, mais quel salopard on était quand on était des gamins. C'est comme ça.
Mais est-ce que vous ne croyez pas, Patrick Lemoine, parce que je pense quand même que c'est les parents qui ne font pas assez attention aux petits jeux qu'on a quand on est très enfant, très jeune. Moi, je me souviens, je m'amusais à arracher les ailes des mouches que j'attrapais, et un jour, ma maman m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Et je sais que ça a été une prise de conscience, je ne sais plus du tout quel âge j'avais, mais je remercie ma mère qui m'a fait prendre conscience de mon sadisme ordinaire. Mais... Et peut-être qu'on ne fait pas assez attention quand on voit nos petits chéris.
Mais Brigitte, c'est vrai ce que vous dites, mais en même temps, peut-être que si votre maman vous l'avait dit 6 mois plus tôt, ça vous serait passé complètement au-dessus de la tête. Parce qu'il y a un âge où on n'a pas idée qu'un autre que soi puisse se faire mal, puisse souffrir. Donc tous les enfants, effectivement, arracher les ailes des mouches, les pattes des fourmis, etc., sont, imaginez, une seconde. Et les histoires que je vous racontais en cours de récré, on était plus grands, eh bien, on n'imaginait pas que le gamin était en pleine souffrance, parce qu'évidemment, on prenait toujours un enfant un peu différent, un peu efféminé, un peu débile, etc. Et c'était monstrueux, quand on y repense après coup, on était des petits monstres, et on s'est construits.
Enfin, on n'est pas tous devenus des Pol Pot, hein.
Non, on n'est pas devenus des Pol Pot. Le gros souci, c'est qu'en effet, c'est Freud qui a dit « l'enfant est un pervers polymorphe ». Et donc, le problème, c'est qu'il y a des gens qui restent à ce stade. Donc ça s'appelle justement les génies du mal, les sadiques, les pervers, et tout ce qu'on peut imaginer.
J'ai une question, si vous le permettez. En dehors des comportements vis-à-vis de l'espèce humaine, et dans l'histoire, etc., qui sont différents entre les blancs, enfin les gentils et les méchants, est-ce qu'il y a des grandes différences de santé psychique entre les bons génies et les mauvais génies?
Ah oui, c'est quand même pas les mêmes.
C'est pas les mêmes. En quoi est-ce différent?
C'est pas les mêmes. C'est-à-dire que la plupart, quand même, alors on va parler des génies collectifs du mal, hein, oui. C'est-à-dire les chefs d'État qui ont massacré, on pourrait parler aussi de Saint-Louis, qui a quand même fait le djihad en Terre Sainte à deux reprises, et qui a également fait la croisade des Albigeois. Donc lui, c'est à beau être un saint, il a un côté génie du mal qui est quand même assez développé, qui a viré tous les juifs de France. Pas parce qu'il était antisémite, mais parce que c'était une façon d'apurer la dette de la France, puisqu'il était endetté vis-à-vis d'eux. Un type pas très recommandable, même s'il était très pieux. Bon,
oui, mais ça, c'est au nom du bien.
C'était au nom du bien, c'est oui, ça oui, qu'il allait, qu'il allait massacrer. Oui, mais enfin, le discours.
Non, mais je
ne
le défends pas. Je dis,
ce que je veux dire, c'est que le discours de Saint-Louis, que je persiste à décrire comme un djihadiste, est exactement le même qu'actuellement. C'est-à-dire que lui, ce n'était pas Daesh, mais c'était la vraie foi. Qu'il allait porter pour convertir et massacrer,
oui,
évidemment, les
incroyables.
Exactement. Donc, si vous voulez, il y a, pour répondre à Eric, il y a tous ces chefs d'État qui sont des grands paranoïaques, style Poutine, style Staline, Hitler, etc., qui sont quand même clairement différents. Et puis, il y a des types qui sont effectivement à la Mao, à Pol Pot, je le mets du côté des paranoïaques ou des pervers. Mao, c'est un peu plus compliqué, effectivement, mais ils ne sont pas du tout dans le même style que ceux que j'ai appelés les génies du bien, qui sont moins collectifs. Mais quand même, par exemple, je pense qu'il y a eu des chefs d'État comme Marc Aurèle, pour ne pas le citer, qui a été vraiment un génie du bien, qui a été un empereur tout à fait remarquable, qui était philosophe en même temps. Mais malheureusement, il a été capable de faire un fils qui a été un empereur abominable, qui s'appelait Commode, qui n'était pas du tout d'ailleurs, mais bon, qui a fait beaucoup de mal.
Eh oui, eh oui.
Passionnant.
C'est en effet un livre passionnant. Merci Patrick Lemoine. On parlera des plus grands cerveaux la semaine prochaine. Ça s'appelle La santé psychique des génies aux éditions Odile Jacob. Voilà, et c'est vrai que c'est passionnant. Et ça se lit comme des petites histoires, voilà. Puis le soir, pour vous aider vos enfants à dormir, vous leur lisez l'histoire de Pol Pot. Et il fera des cauchemars toute la nuit et vous ne dormirez pas. Merci Patrick Lemoine.
Merci Brigitte, au revoir Eric.
Allez, on se retrouve pour le Love Conseil.
Sud Radio Brigitte Lahaye, le Love Conseil.
Avec Amin Love, votre amour ne sera plus flou. Amin Love, l'application pour vos rencontres.
Eh bien, Eric Allaire, j'ai carrément mis les pieds dans le plat. La sexualité des hommes avec l'âge, voilà. C'est le Love Conseil du jour. On refait une petite piqûre de rappel.
Allons.
Sans produit pour l'érection. C'est vrai que l'homme ne connaît pas la ménopause, mais au fil du temps, ben, il va peut-être connaître une baisse, parce que c'est le cas, finalement, pour tout organe. Je crois que c'est tout simplement ce qu'il faut rappeler. Hein. Le vieillissement, ben, ça, les organes, chaque organe va vieillir plus ou moins vite, ça dépend de beaucoup de choses. Avant la trentaine, bon, on pourrait dire qu'il y a presque un excès de testostérone, hein, ce qui provoque un besoin de libérer son sperme, parfois même de manière frénétique. Hein, et puis, on pourrait dire que c'est vers la cinquantaine qu'il y a un équilibre entre les instincts naturels et le désir. Hein.
Oui.
Ça vous va ?
Oui.
Et puis au fil des années, alors on l'a déjà dit, mais je le répète, hein, on remarquera une érection plus lente à venir, une éjaculation parfois plus rapide, en tout cas plus rapide dans la durée de l'éjaculation, hein, et un sperme qui va être expulsé moins rapidement, ce fameux jet qui va moins loin et qui inquiète souvent d'ailleurs beaucoup les hommes. Je ne sais pas s'ils viennent consulter.
Ils diminution ont du volume aussi.
Ils ont l'impression qu'ils perdent leur fertilité. Ouais. Hein,
ce qui est le cas d'ailleurs.
Oui, ce qui est un peu le cas aussi. Hein. Et puis un pénis qui, après l'éjaculation, redevient flasque plus rapidement. Une période entre deux éjaculations qui va être plus longue. Bon, tout ça, on l'a dit. Hein. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est... Alors, peut-être que c'est faux, hein, je ne sais pas, j'ai essayé de... J'ai mené ma petite enquête. Le poids des testicules qui diminue.
Oui.
C'est vrai.
Oui, hein, oui, mais c'est en relation avec la déprivation en testostérone, en fait.
D'accord, bon, ben voilà, donc les testicules, le poids diminue, mais c'est moins lourd à porter.
Après tout.
Hein. Et des sensations parfois sur la verge qui sont moins intenses, de même que l'orgasme peut être un peu moins intense, en tout cas moins violent, je dirais, pour utiliser le mot exact, parce que l'intensité peut être due à plus de volupté. Hein. Et puis aussi l'angle d'érection qui peut être plus faible.
Oui, bah cet angle d'érection, il est relié à la force de l'érection, à la dureté du pénis. Oui.
Voilà. Et toute maladie qui peut augmenter cette différence, comme le diabète, l'hypertension, etc., mais un cancer, enfin bref. Voilà, donc raison de plus pour avoir une bonne hygiène de vie, puisque ça maintient une bonne sexualité.
Alors, il y a juste un court commentaire. Il y a quelque chose d'intéressant qui n'est pas forcément, extrêmement heureux à l'origine, mais on divorce beaucoup. Donc on refait sa vie beaucoup. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en consultation, on voit beaucoup d'hommes de 50, 60, 70 ans, au-delà, qui viennent et qui disent j'ai une compagne, là, il faut que ça marche. C'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire aussi que l'aspect volontaire et j'allais dire conquérant de sa bonne santé sexuelle, eh bien ça existe et finalement c'est quelque chose de positif.
C'est agréable pour les femmes qui sont mariées depuis 30 ans.
Et puis pour celles, qui sont redécouvertes aussi.
Non, d'accord, mais enfin, elles sont avec un homme qui bande plus beaucoup, qui s'en fout.
Oui.
Et elles viennent d'entendre que s'il était avec une nouvelle compagne, il ferait quelque chose. Eh ben dis donc, hein.
L'humanité est ainsi.
Eh oui.
Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un témoignage absolument extraordinaire de ce couple, je crois que c'était le premier témoignage, qui cultive son bonheur dans le pré, si ma mémoire est bonne.
Oui, absolument. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moyen de redresser la barre.
Oui, aussi, bien sûr.
À tout moment.
Voilà. Mais...
mais il faut peut-être s'en occuper un peu. Hein,
absolument.
Il faut consulter. Bérénice, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez reçu ce jouet qui est assez marrant, assez joli. C'est un stimulateur clitoris et point G de la marque Satisfyer, qui est tout blanc avec un petit tambour rose. Comment le décrire?
C'est plutôt, il est délicat. Moi, je trouve qu'il a une forme de coquillage.
Oui, c'est vrai que c'est très joli. Une pointe qu'on introduit dans le vagin et puis ensuite il y a un petit souffleur aspirateur pour le clitoris.
C'est ça, des ondes de pression pour le clitoris. Je suis ravie que vous m'ayez offert ce jouet. Je l'ai bien testé et j'ai pris beaucoup de plaisir, je vous le cache pas. Effectivement, il est très efficace. Il est réglable en fait. L'angle est réglable, les vitesses sont réglables.
Ah oui, l'angle est réglable. En effet, j'avais pas remarqué.
Et il s'appelle Supernova. J'ai été chercher la définition de Supernova parce que ça me parlait un petit peu. Et c'est l'implosion d'une étoile avec une augmentation fantastique de sa luminosité. Alors, c'est l'effet obtenu avec le jouet, en fait. Ça conduit à l'orgasme, c'est plutôt sympa.
Oui, je pense qu'il doit être assez efficace. Moi, je crois qu'il est en fin d'énergie, là, parce qu'il vibre pas fort.
Il vibre bien rechargé, il vibre tout à fait bien.
Oui, c'est ça, parce que là, je trouve qu'il est un petit peu en sous-régime.
Pour le recharger, c'est comme les hommes.
Je vois que Bérénice a un peu d'expérience.
Alors, le seul petit bémol, je trouve que c'est les boutons, en fait. Les boutons, ils sont pas super faciles à régler, justement. Tout se règle bien, mais enfin, individuellement, mais en fait, c'est pas si évident que ça.
Oui, c'est le petit bémol. Béatrice, vous aviez l'air de ramer un peu, Bénédicte. Hein. Ah, ça y est, elle me l'a mis en fonction.
Le seul bémol de ce jouet, c'est que ces boutons, c'est pas si simple. Et puis, alors, si on est un petit peu ému par l'action du jouet en lui-même, ça aide pas du tout.
Ça n'a rien à voir. Hein. Bravo, Bénédicte. Merci. Oui, j'avais vraiment été... Là, je commence à comprendre ce que vous êtes en train de dire de Supernova. Hein.
Vous voyez, donc je le recommande chaleureusement à tout le monde.
Ouais, franchement, oui, je pense qu'il est sympa. Bon, alors on vous le laisse, alors on le reprend pas.
Ah, vous ne le reprenez pas, non. On peut l'utiliser encore.
Oui. Bon,
je lui mets un petit 9 sur 10 à cause de ces boutons, mais qui sont un peu capricieux, mais on pourrait monter facilement à 9,5.
D'accord. Bah, une fois qu'on a l'habitude, sans doute que ça va. Et puis pour l'éteindre, c'est pas simple non plus. Hein.
Exactement.
Ah vache, oui. Il veut pas dormir. Bon, 9,5 sur 10 pour ce stimulateur clitoris et point G Supernova de la marque Satisfyer. Vous pouvez le retrouver sur l'enseigne ruedesplaisirs.com et en effet, il a deux fonctions. Hein, et moi, j'aime bien quand ils ont deux fonctions, que ce n'est pas uniquement des stimulateurs clitoris. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Bérénice. Merci à vous.
De rien, merci.
Et puis, on retrouve Pascal. Bonjour, Pascal.
Oui, bonjour, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Pascal. Donc vous avez eu des problèmes d'érection il y a 4-5 ans, c'est ça?
Alors, disons que j'écoute votre émission depuis très longtemps. Les invités que vous avez eus et quelques médecins m'avaient donné des conseils il y a 6-7 ans. J'étais dans une position, sociale, travail, activité, où j'étais complètement débordé, noyé par le travail, et c'était un peu volontaire, j'oubliais ma vie. Et j'ai rencontré à l'époque plusieurs partenaires, et c'était difficile. Je commençais vers l'âge de 50 ans à baisser de forme, à ne plus avoir une érection ferme, à douter de moi, à douter des partenaires. Et en fait, j'ai compris un peu plus tard. Après quelques années où j'ai pris du Cialis, j'ai compris un peu plus tard que en fait, ça n'avait rien à voir, que c'était pour moi, dans mon cas, particulièrement mental. J'ai rencontré il y a un peu plus de 3 ans une femme que je peux qualifier de femme magnifique, avec laquelle on a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de choses que l'on aime faire à deux, cinéma, restaurant, balade, randonnée en montagne, être à la mer, traîner ou ne pas traîner sur le sable ou se promener. Enfin, on est vraiment en adéquation dans beaucoup de domaines. Et je dois avouer que sexuellement, je n'ai jamais été aussi amoureux et aussi homme dans ma peau. Et elle-même me dit régulièrement que elle découvre une sexualité qu'elle n'avait jamais rencontrée. Et c'est ainsi que je peux terminer ce que j'ai à vous dire, mais je peux vous donner plus de précisions.
Si oui, non, mais vous restez avec nous parce que votre témoignage, je le trouve essentiel. D'abord, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que quand il y a trop de choses dans la tête, il n'y a pas suffisamment de place pour que ça aille du cerveau au pénis, hein, tout simplement. Enfin, oui. c'est une image que je donne, mais je pense qu'elle est assez, elle est assez juste. Hein.
Oui, bien sûr, notre cerveau, alors plus on le cultive, plus il est performant, mais c'est vrai qu'il a des limites. Par exemple, il y a les chauffeurs de taxi qui apprenaient, maintenant que le GPS n'est plus nécessaire, mais le plan
de Paris,
des rues de Paris, de Londres, etc., mais il a été montré en neurophysiologie qu'il y a d'autres fonctions qui, du coup, étaient moins sollicitées.
Oui, on ne peut pas tout faire.
On ne peut pas tout faire.
Et quand on est trop dans le travail, le stress, etc. Ben, et d'ailleurs, il y a des enquêtes qui ont largement été prouvé. Hein, les meilleurs amants, c'est pas les grands hommes d'affaires ou les hommes politiques qui sont surchargés de problèmes. C'est plutôt le bûcheron quand il a fini, qui rentre chez lui et qui a la tête libérée et qui est prêt à faire l'amour à sa femme. Hein. Donc ça, c'est une première chose très intéressante que vous avez constatée, Pascal, et que vous avez donc réglée. Et puis la deuxième chose que je trouve formidable, c'est que lorsqu'on a une véritable partenaire, compagne, avec qui tout est en harmonie, eh bien la sexualité, elle est au top. Hein.
Oui. C'est tout à fait un partage qui est très intéressant, parce qu'on partage tout à ce moment-là. Les moments de la vie, on a plaisir à faire des choses ensemble, les moments de la vie où on fait des choses et il y a un désir de poursuivre l'activité, de poursuivre ce qu'on fait, de pouvoir partager aussi. Un film, on est admiratif si on en trouve un film très beau, mais si on est seul, on ne peut pas en discuter, on ne peut pas partager. Le plaisir de la table, pareil. Le plaisir du théâtre ou éventuellement d'aller pouvoir aller à une exposition. Bon, c'est sûr que si on partage et si en plus, derrière cela, on peut amplifier ce plaisir par une relation sexuelle totalement ouverte et totalement sans tabou, mais dans le respect de l'autre. C'est-à-dire qu'on est tous les deux dans une liberté d'être et une liberté de faire qui nous surprend nous-mêmes. Et ça, c'est assez fantastique.
Oui, et puis vous entretenez le désir l'un et l'autre par cette harmonie que vous avez dans votre couple, évidemment.
Oui, et il y a une chose que je peux rajouter, même si j'ai 69 ans, je n'ai jamais autant ressenti la femme, je n'ai jamais autant ressenti l'homme que je suis, avec des sensations de caresse, de douceur, de tendresse, de partage, mais aussi, bon, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui nous écoutent, mais lors de la pénétration ou lors du partage de notre activité sexuelle, c'est un réel partage où on le ressent l'un et l'autre, des choses assez vibratoires, assez fantastiques, qui nous permettent aussi d'envisager d'autres choses. C'est toujours le plaisir de découvrir et le plaisir de faire plus, sans concurrence et sans volonté de faire mieux ou d'être le premier. Non, c'est la volonté de partager et d'être bien.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une sexualité qui se vit de l'intérieur et non pas de l'extérieur pour le spectacle qu'on va donner de sa virilité et de sa performance, bien sûr. Bien sûr. Joli témoignage, hein, Eric Keller. Et je crois que bon, ben, la sexualité d'un homme de 69 ans peut aller très très bien.
Absolument.
C'est aussi un message très positif.
Absolument.
Merci beaucoup Pascal. Merci à vous.
Merci. Bonne fin de journée.
On va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et nous sommes toujours en compagnie de Eric Keller, professeur de chirurgie vasculaire et auteur de ce guide de l'impatience. C'est aux éditions Bouclis, donc c'est un livre auto-édité et qui donne beaucoup, beaucoup de réponses à toutes les questions que les hommes peuvent se poser sur leur érection. Didier, justement, est là et il a des questions à vous poser, Eric Keller. Bonjour Didier.
Bonjour Brigitte, bonjour Eric Keller.
Bonjour Didier.
Voilà, bonjour. Moi, j'ai remarqué que dans l'évolution de ma vie sexuelle, j'ai débuté assez tardivement ma vie sexuelle quand j'avais une vingtaine d'années, comparé à mes camarades de classe. J'étais toujours avec une petite amie. Et puis, quand j'avais à peu près 33, 35 ans, j'ai commencé à être libertin, à avoir une vie sexuelle très, très active, à avoir plusieurs partenaires, à beaucoup m'amuser. Et il y a quelques années, suite comme ma famille m'a expliqué certaines choses qui m'avaient toujours menti, comme quoi j'ai été abusé quand j'étais enfant et que j'avais un frère un petit peu, même pas qu'un petit peu, qui est vraiment un pervers narcissique, j'ai complètement bloqué ça m'a complètement bloqué au niveau de ma libido et ma vie sexuelle.
Oui.
J'ai complètement tout arrêté. Et en fait, là, je suis dans une phase où j'essaie de recommencer à reprendre du plaisir, recommencer à rencontrer des femmes, à sortir. J'ai beaucoup de peur, de crainte au niveau de mon érection. Je suis pas à l'aise par rapport à ça. J'ai pas confiance par rapport à ça. Et je vois, très récemment, j'ai rencontré une femme, par exemple, et la pénétration a été très, très compliquée, voire quasiment impossible. Je sais pas si c'est un manque de confiance en moi ou je sais pas pourquoi, mais j'ai une bonne érection au départ, et pendant l'acte, je perds mon érection.
Bon, histoire complexe. Quand une histoire est complexe, il faut explorer les choses simples. Bon, j'imagine que on vous a déjà posé la question, mais faisons-le quand même. Vos érections le matin sont de bonne qualité ?
Non, c'est très rare que j'ai des érections le matin. Alors, et ça, j'ai toujours
sur,
été
une,
comme ça,
sur une semaine, les sept matins d'une semaine, combien de matins avez-vous d'érections, quelle que soit la dureté de l'érection?
C'est très rare, c'est très peu. Moi, toute ma vie, j'ai eu très peu d'érections le matin.
Si vous étiez un de mes patients, je vous engueulerais. Je vous demande un chiffre.
Zéro ou une.
Quasi zéro, ouais, d'accord. Ouais. Et depuis combien de temps?
De tout temps.
Ouais.
Même quand vous étiez libertin, avec une sexualité très, très épanouie, très riche, vous n'aviez pas d'érection le matin.
Voilà.
Et lorsque vous stimulez tout seul, l'érection est dure, pas dure? Comment ça se passe?
Non, l'érection est dure. L'érection est dure. Il est vrai que depuis... comme j'ai eu une période creux quand même pendant un moment où j'ai rien du tout comme libido, et grâce au conseil de Brigitte, j'ai repris à au moins me caresser, à reprendre du plaisir tout seul, c'est revenu un petit peu. Mais il est vrai que... Non. Elle est dure, mais...
Et c'est stable?
En ce moment,
c'est stable non. Ou il faut restimuler tout le temps?
Non, il faut restimuler tout le temps, parce que sinon je perds mon érection.
Alors, votre histoire personnelle dramatique a très certainement une influence, enfin un impact sur évidemment votre vie sexuelle et peut-être vos érections, je ne le conteste pas. Mais il serait extrêmement important qu'on s'assure que vous n'ayez pas de fuite veineuse. Parce qu'une histoire qui commence très jeune comme ça, même avec le contexte que vous décrivez, est tout à fait compatible. Et en tout cas, le fait que les érections le matin... et lors des masturbations ne soient pas, sont pas optimales, eh bien ce simple fait-là suggère que, en plus du problème psychique qui est indéniable, eh bien il peut y avoir une atteinte organique, hein, que la mécanique de l'érection ne soit pas tout à fait satisfaisante.
De toute façon, comme toujours, Didier, il faut d'abord aller vérifier s'il y a quelque chose sur le plan médical, anatomique, qui ne fonctionne pas bien. Et à ce moment-là, faire ce qu'il faut pour remettre en place la bonne qualité érectile de votre pénis. Et puis, parallèlement, il est évident, dans la manière dont vous en parlez, que vous avez quand même été traumatisé par ce qu'on vous a raconté. Et donc ça me semble aussi important de faire un petit travail pour mettre les choses au bon endroit, parce que j'ai l'impression que vous savez pas trop finalement qu'est-ce qu'il faut en faire de ce qu'on vous a dit.
Grâce à vous, en fait, Brigitte, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, j'avais rencontré le docteur Guérin,
Oui, d'accord.
Fait des ateliers justement
oui, donc,
pour m'aider là-dessus.
Donc elle a fait un travail formidable, Violaine Guérin, j'ai aucun doute sur son accompagnement, d'accord.
Tout à fait, l'accompagnement a été génial, et je vois dans ma vie personnelle, en dehors de ma vie sexuelle, il y a une énorme différence. J'étais tellement choqué que, heureusement qu'elle était là parce qu'elle m'a remis sur pied et que dans ma vie personnelle et professionnelle, oui. Mes relations avec les gens, tout va mieux.
Mais vous savez, Didier, et d'ailleurs, on reçoit Michel Odoul demain, de toute façon, donc on reparlera de ça demain. Mais quand on a sur le plan psychique quelque chose qui n'a pas été, quelque part, le corps le traduit. Et il est possible que ça ait créé une baisse hormonale. On sait à quel point beaucoup de femmes et d'hommes ont des problèmes hormonaux suite à des abus. Et peut-être qu'il y a en effet une baisse de testostérone qui s'est manifestée suite à tout ce que vous avez subi et découvert et réappris quand on vous l'a dit. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à faire, tout simplement. Et puis, en sachant exactement où vous en êtes sur le plan, le bilan de santé, plus le travail que vous avez fait, vous allez rééquilibrer tout ça et la machine va repartir comme avant. Moi, c'est un peu le diagnostic comme ça, très rapide, que je fais, mais qui me semble assez juste, non?
Oui, Brigitte, il faut faire les deux, absolument.
Et faites les deux, et puis remettez les choses au bon endroit, Didier. Je pense que ça devrait bien repartir. Merci en tout cas de votre confiance, et bravo pour le travail que vous avez fait. Merci. Eric Haller.
Merci, Brigitte.
Je crois que les hommes ont compris le message. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir, et demain, justement, je viens de le dire, on sera avec Michel Odoul et on verra quel sens il faut donner à nos maladies.